Vous me connaissez, je suis Trudy Bolter, professeure émérite à Sciences Po, Bordeaux, et chercheur en cinéma. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être l'animatrice de ces ciné-conférences Utopia Mola. Alors, hier soir, à l'Utopia, j'ai eu le plaisir de présenter deux films d'époque différentes. « Tout ce que le ciel permet » de Douglas Sirk, 1955, et « Loin du paradis » 2002 de Todd Haynes. Ce dernier n'est pas tout à fait un remake du film de Sirk, mais il en incorpore des éléments importants qu'il commente et met à jour. Le film de Sirk avait précédemment influencé Rainer Werner Fassbinder pour un film appelé « Ali, la peur dévore l'âme » de 1974. Sirk a aussi eu de l'influence sur François Ozon, qui lui rend souvent hommage, attribuant à son expérience de Sirk, par exemple, de sa conception de la femme utilisée dans son film « Vie de femme ». Et Almodovar, sans lui rendre hommage, crée des mélodrames colorés très analogues au film de Sirk, dont nous parlons aujourd'hui. Sirk... Et j'avais un beau portrait de Sirk ainsi qu'un portrait de Todd Haynes. Donc, Sirk né en 1897, mort en 1987. Et il a été un metteur en scène du cinéma et du théâtre en Allemagne. Et il a quitté l'Allemagne en 1937 parce que son épouse était juive et c'était dangereux. Donc, il est venu en Amérique et pour commencer, il a eu une ferme de volailles et, dont il s'est occupé pour quelques années avant d'avoir une invitation par un studio pour faire un film. Il a commencé... Et finalement, il a fait plus de deux fois plus de films en Amérique qu'en Allemagne, 14 en Allemagne et 32 films aux USA, dont une série de mélodrames tournés en couleur dans les années 50. Et surtout, les quatre films suivants qui font partie du patrimoine des États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous les voyez dans votre tête. 1954, Le secret magnifique, Magnificent Obsession. 55, Tout ce que le ciel permet, qu'on a vu hier soir, All that heaven allows. 56, Écrit sur du vent, Written on the wind. Et 59, Mirage de la vie, Imitation of life. Il y a au moins deux autres films de ceux qui sont considérés par bien d'experts comme faisant partie de ce canon de chef-d'œuvre du mélodrame. Personnellement, je trouve que ces quatre films constituent l'essentiel de la grandeur mélodramatique de Douglas Sirk. Et certains de ces films ont beaucoup de choses en commun. Le film de 56, ils sont tous, par exemple, avec Rock Hudson. Est-ce que vous avez vu une image, si vous ne l'avez pas connue de vos yeux, cet acteur formidable qu'on a appelé un axiome plutôt qu'un acteur, parce qu'il est immensément beau et immensément grand, et il a vraiment le cœur et l'âme de ces films, essentiellement des films d'amour. Mais le troisième film écrit sur le vent est un peu différent parce qu'il concerne une famille de pétroliers texans où il y a des conflits entre un fils adoptif et un fils biologique de la famille. Et c'est une histoire vraiment de frères. Le mélodrame étant en général une histoire de famille, il y a un frère qui est fou et l'autre qui est bien, c'est Rock Hudson. Mais ce n'est pas vraiment dans la même lignée que ces trois films dont je viens de vous parler. Alors, ce film n'était pas un remake, mais c'était une suite à la première, au premier film de la série de 1954, Le secret magnifique, qui avait les mêmes vedettes, c'est-à-dire Rock Hudson et Jane Wyman. Et, le secret magnifique était tiré d'un roman très moraliste par un prêcheur devenu romancier qui s'appelait Lloyd Douglas. Et Jane Wyman elle-même était très spirituelle. Elle a été enterrée dans un habit de bonne sœur parce qu'elle faisait partie d'un ordre tertiaire et elle était devenue extrêmement croyante. Mais elle avait choisi, elle avait été oscarisée pour un mélodrame précédent dans lequel elle jouait une jeune fille sourde, muette, qui avait été violée et qui avait eu un bébé et qui a finalement tué son violeur. Ça s'appelait Johnny Belinda. Donc, elle avait beaucoup de poids dans son studio. Et elle a dit, faisons le secret magnifique. Alors, ce film, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, c'est une chose extraordinaire qui est un remake d'un film de 1935 de John Stahl. Il s'agit d'une jeune veuve. Mais comment est-elle devenue veuve? Il y avait un milliardaire, casse-cou, qui se promenait sur un lac dans son bateau à toute vitesse, à toute vitesse. Il a eu un accident. Il a eu besoin d'un respirateur. En même temps, son mari, un homme bon, un médecin qui ne faisait que du bien autour de lui, a eu un infarctus et lui avait eu besoin du même respirateur parce que dans la localité, il n'y avait qu'un seul. Alors, son mari est mort à cause de ce milliardaire qui, en même temps, trouvait très, très attirante l'épouse, devenue la veuve. Et il commençait à la poursuivre. Mais pour l'éviter, elle s'est jetée dans la circulation. Elle a été renversée. Elle est devenue aveugle. Alors, c'est quelque chose. Parce que elle le détestait, elle ne voulait pas le voir. Et ce qu'il a fait est quelque chose d'admirable. Il est allé finir sa médecine qu'il avait abandonnée. Et dans l'espace de 6 ans, il n'avait pas seulement obtenu le prix Nobel, mais il avait aussi appris à faire la seule opération très risquée qui pouvait la guérir. Et donc, ça, à la fin de la film, ces deux amants sont ensemble. Entre-temps, il lui a fait la cour sous un faux nom pendant qu'elle était aveugle. Donc, elle savait un peu qui c'était vraiment à la fin. Mais cette histoire extraordinaire avait été proposée par Jane Wyman pour un remake. Voilà, donc c'est assez typique des 4 grands mélodrames de cirque qui tous ont une magnifique photo de Russell Mattie et un décor fait par un monsieur Golitsyn, mais qui avait été né prince Alexandre Galitsyn sous l'ancien empire russe, et un magnifique musique. Et c'est un décor et une histoire qui est presque trop beau pour être vrai. Seulement, il soulève des problèmes humains, universels, et arrive à nous toucher et traite quand même avec des problèmes de société dans les années 50. Ce n'est pas des films d'évasion. Parce que dans les 3 mélodrames que je vous ai soumis, donc, il s'agit de veuves, de la place de la femme dans la société, de ses devoirs envers ses enfants et dans une époque où il y a énormément de films de ce type. Parce qu'une chose que je vais dire maintenant, mais que je vais dire à la fin, c'est que les années 50 ont mauvaise presse, comme au fait le mélodrame. Et il faut voir les années 50 comme le berceau des années 60. Comme nous avons vu dans le film hier soir, donc, on a un héros qui a quitté la société de consommation pour aller vivre avec la nature dans un métier familial, mais qui est loin de ce qu'on pourrait croire à la mode à cette époque-là. Et le film suivant, c'est-à-dire « Tout ce que le ciel permet », était fabriqué, était créé pour réunir les mêmes vedettes que Le Secret Magnifique, c'est-à-dire Jane Wyman et Rock Hudson. Et donc, c'est un peu un homme des années 60 qui au fait, attire une femme très conventionnelle qui doit apprendre comment être à la hauteur de l'homme qu'elle aime. Et c'est donc un film, il y a beaucoup d'interprétations du film qui disent « Ah oui, 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 c'est un film, c'est un rêve éveillé pour des consommatrices et des consommateurs ». Et ça renforce l'idée des années 50 comme une époque conformiste et consommatrice. Mais on va voir qu'elle y arrive, et c'est l'idéal que prône le film. Donc, avec cet homme du futur, incarné par le beau Rock Hudson, elle est censée, dans le film, d'être de 15 ans son aînée. En réalité, il y avait une différence de 8 ans. Et dans le premier film, Le Secret Magnifique, il devait être du même âge. Mais cette différence n'apparaît pas, mais ça influe beaucoup sur sa personnalité. Ses enfants le détestent parce qu'aussi il y a question d'argent qu'elle en a, dont elle a une certaine quantité. Et voilà, donc il s'agit de veuves qui sont également des mères. Et la mère est un des personnages du mélodrame qui principal au fait. Ça peut être un père, mais l'histoire d'une mère qui perd son enfant, comme dans un film qui s'appelait Backstreet, où il y a une maîtresse, un film des années 30, une maîtresse condamnée à vivre loin du monde avec son enfant, abandonnée par son amant. Ou dans beaucoup de films de Griffith, donc le père du cinéma américain, qui a hérité la forme du mélodrame du 19e siècle. Et on a souvent, ici, dans ce magnifique film, Le Lys brisé de 1921, une petite fille qui est battue par son père et finalement tuée par son père parce qu'elle a un ami platonique qui est un jeune Chinois. Qui habitent dans leur taudis de Londres, ou les deux orphelines, deux vierges de la campagne qui viennent à Paris dans la Révolution et qui sont menacées par les aristocrates qui veulent absolument, absolument pas ne pas les marier, mais qui veulent les induire à mener une vie peu recommandable. Et il y a également des films où il y a des femmes, des hommes, excusez-moi, qui sont des pères qui risquent de perdre leur enfant. Il y a un film qui s'appelle Le Champion de King Vidor de 1931. Il y a eu des remakes où le père, le papa, est un boxeur alcoolique, séparé de sa femme qui menace toujours de lui reprendre le fils qui est adorable, c'est Jackie Coogan. Et c'est son combat pour se rendre respectable aux yeux de son fils. Il participe à un dernier combat qui, bien évidemment, est trop pour lui. Son cœur ne résiste pas. Mais, et son fils le perd, mais il est fier du papa mort. Donc, dans tous ces mélodrames, au fait, à commencer avec Griffith, il y a des relations familiales et il y a un historien du cinéma qui s'appelle Robert Long qui propose que le cinéma américain est vraiment une collection d'histoires de famille, que des films sur la famille sont, même si c'est déguisé en western ou il y a un habillage de films de gangsters. C'est une question d'affection, de loyauté, de respect entre les membres d'une famille. Alors, Stella Dallas est une histoire d'une jeune fille très, très, très jolie, jouée par Joan Crawford, qui épouse son patron. Mais leur vie continue, il y a une fille, et lui est ambitieux, et son milieu lui manque, et elle est vraiment un peu vulgaire. Quand elle fait de la couture, pour elle, elle fait que des choses voyantes, vulgaires, mais pour sa fille, c'est les habits d'un ange. La fille est vraiment très distinguée, très aristocratique. Et finalement, la femme se met en situation douteuse. Elle perd sa réputation à tort et il divorce. La jeune fille devient adolescente et la maman se rend compte qu'elle est vraiment un obstacle pour sa fille parce que les garçons snobs qu'elle fréquente la ridiculisent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ment, elle dit à sa fille qu'elle est partie en Amérique du Sud avec un de ses copains vulgaires. Et elle la laisse avec la deuxième épouse qui est extrêmement distinguée, mais qui en même temps possède un cœur. Donc c'est tout à fait la fin du film. Je pleure à chaque fois que je le vois. Et on voit que la jeune fille va se marier avec un garçon de son milieu. Et la deuxième femme de son père dit au butler, au serviteur, de laisser, de ne pas fermer les rideaux. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, qui écrit au sujet du cinéma, qui écrit un livre sur la femme inconnue dans le mélodrame, c'est-à-dire une femme qui semble être un peu soumise, mais qui a accompli ce qu'elle a voulu faire et qui se révèle d'une énorme force. Alors, c'est le cas ici, parce que c'est très, très triste. Elle manque à sa fille. En même temps, elle a réussi à ne pas gêner sa fille. Et c'est tragique, mais en même temps, on peut l'admirer. Donc, il y a Cavell qui écrit, il y a Lang qui écrit, il y en a énormément de savants qui écrivent sur ces films, qui sont constamment réédités à chaque fois avec des bonus par des commentateurs de plus en plus éminents. Pourquoi ? Parce que dans le cas de Cirque, il s'agit de la réhabilitation d'un genre, le mélodrame qui a été confondu donc avec les émissions pour la femme au foyer, qui a été critiqué. Par exemple, le film qu'on a vu hier soir, « Tout ce que le ciel permet », quand il est sorti, le critique du « Time magazine » n'avait pas, même pas mentionné le nom du metteur en scène. Il a dit, ah voilà, voici une chose pour les mêmes femmes qui écoutent les feuilletons à la radio. Et au fait, il était peut-être incapable à l'époque, je crois pour deux raisons, pas seulement parce que le mélodrame s'était vulgarisé, et où il a toujours été vulgaire, mais que les meilleurs exemples n'étaient pas reconnus comme des mélodrames, et aussi parce que ça rappelait les films de Griffith, justement, c'est-à-dire les films muets, et le cinéma a toujours voulu prouver qu'il était au fait de tout, très progressif et techniquement très avancé. Mais à l'époque, il était impossible pour ce critique, quand même lu par des millions de gens, à reconnaître la valeur de ce film. Mais il arrive que ces films-là ont une énorme influence sur les jeunes réalisateurs. Donc, j'ai parlé de Fassbinder, Almodovar, Haynes, James Gray. Et il arrive que l'un de ces jeunes metteurs en scène, et on verra le clip tout à l'heure, donc Fassbinder a écrit un film qui s'appelle Allez, la peur dévore l'âme, où il transpose l'action de tout ce que le ciel permet à l'Allemagne contemporaine. Et au lieu d'avoir un couple avec une différence de 15 ans, il donne un couple avec une différence de 40 ans. La femme est une femme de ménage vieillissante qui se marie avec un Marocain beaucoup plus jeune qu'elle. Et le film est calqué à beaucoup d'égards sur le film de Cirque. On voit beaucoup d'éléments qui sont dans tout ce que le ciel permet. Le téléviseur, si vous vous rappelez, à un moment donné, elle rompt avec Rock Hudson parce que ses enfants ont peur que du con dira-t-on. Et ses enfants, à Noël, ne viennent pas la voir, mais ils l'envoient un téléviseur et le vendeur lui dit « Ah oui, une femme a tout ce qu'elle veut de la vie dans ce téléviseur, etc. » Et on voit donc un téléviseur, une voiture bleu pâle, comme il y en a dans le film de Cirque et le film de Haynes. On voit les copines qui admirent les muscles. Si vous vous rappelez, dans le film de Cirque, ils arrivent à un cocktail et toutes les copines commentent sur la force du fiancé. Et à la fin du film, si vous l'avez vu, vous vous rappelez que le fiancé a tellement de joie à voir le retour de sa femme qu'il ne regarde pas où il met le pied et il tombe d'une falaise. Et donc, à la fin du film, il est malade et elle le veille et on espère qu'il va revenir comme avant. Peut-être il va vraiment devenir le même homme. Mais ce film se réfère autant que le film de Haynes au film de Cirque. Non, ce film est apparu l'année où la vidéocassette est entrée sur le marché. Et vraiment, les cinéphiles américains avaient fait des films de Cirque, des films de patrimoine, parce qu'ils étaient constamment à la télévision. Hollywood avait des contrats avec les chaînes de télévision pour les films anciens. Donc, on les voyait constamment, mais avec les vidéocassettes et en même temps l'essor des études filmiques, des études universitaires de cinéma, ce film a pris une très, très grande valeur à partir de ce moment-là. Et d'autres films des années 55-56, donc Graines de violence et La nuit du chasseur, qui sont également des mélodrames où il y a la question des enfants en danger et des relations des femmes menacées et des relations familiales et en même temps une vision critique de la société. Et voilà une scène d'un film merveilleux de Griffith qui s'appelle Intolérance. Il y a une histoire moderne où les bonnes dames de la bonne société qui travaillent pour les œuvres viennent ôter à un personnage qui s'appelle la petite chérie son bébé parce que le mari est en prison. Donc, nous nous tournons maintenant à Todd Haynes. Todd Haynes a peut-être une relation particulière avec ces mélodrames à cause de leur grande valeur, mais aussi parce qu'il est arrivé en 1984. Il est arrivé que Rock Hudson, cette magnifique vedette, était gay. Et au fait, il se mourait d'un sida. Il était la première vedette d'Hollywood à déclarer cela. Et pendant des années, pendant 30-40 années, le studio avait gardé ce secret. Mais dans tous les films de Todd Haynes, il y a un coming out homosexuel. Il faut mentionner au passage que le deuxième mari de Jane Wyman avait été le président Ronald Reagan, mais à l'époque du film, on ne savait pas cela. Pour le film « Tout ce que le ciel permet », Il est de mise de dire, parce que Sirk avait donné beaucoup d'entretiens, il y a plein de livres qui commentent ses commentaires, et il est habituel de dire qu'au fait, le film était très conformiste et flattait la vision des Américains des années 50, et que c'est Sirk qui avait injecté des petites touches rebelles, des petites touches révolutionnaires, suggérant que tout n'était pas comme il semblait et qu'il fallait réagir et se bouger un peu et changer la société. Alors, on a dit cela, on a dit que Sirk ne faisait pas attention au scénario que le studio lui passait, et il faisait ce qu'il voulait sur ce scénario. Or, j'ai lu un article par un jeune universitaire américain qui s'appelle Metz, sans avoir rien à voir avec Christian Metz, mais ce monsieur a vraiment lu le roman d'où est tiré Tout ce que le ciel permet. C'était un livre avant d'être publié, qui était publié sous forme de feuilleton dans un journal de femmes. Et au fait, le roman encourage les femmes à réagir, à ne pas suivre la règle de la société bien pensante et à suivre leur chemin. Libre de l'influence délétère de la société. Donc, voilà, l'héroïne du film, Tout ce que le ciel permet, son problème, c'est est-ce qu'elle va, contre l'avis de ses enfants et de ses amis, épouser cet homme plus jeune qui est une sorte de hippie. C'est pas un hippie, c'est un hippie, c'est un pépiniériste, on dit souvent un pauvre jardinier. Mais au fait, il est entrepreneur. Il a une affaire de horticulture et de sylviculture. Il possède un moulin dont il va faire une magnifique maison un peu bohème. Todd Haynes a vu dans le film de Sirk une matière qu'il pouvait adapter pour son film avec Julianne Moore. Et il a fait l'histoire d'une jeune femme qui est mariée avec un homme qui se révèle homosexuel. En même temps, ce monsieur n'est pas très gentil parce qu'il est torturé par son secret. Son secret, au fait, c'est ça, son orientation sexuelle dans les années 50. Mais on ne peut pas vraiment s'identifier, à mon sens, avec lui. Elle nie avec elle parce qu'elle est toujours, toujours, toujours gentille et soumise. Et voilà, donc c'est un jeune couple qui travaille pour une société de télévision. C'est le rappel de la télévision dans Tout ce que le ciel permet. Ils ont une voiture et leurs amis ont des voitures bleues pâles. Il y a ces magnifiques feuilles et la femme en question forme un lien affectif, mais ils ne sont jamais amants, avec un jardinier afro-américain. Donc, le décor du film, c'est Hartford, dans le Connecticut. Il faut savoir que c'est à 2 heures de route de New York et contient, parmi ces monuments, la maison de Harriet Beecher Stowe, l'auteur de La case d'Oncle-Tom, Tom, qui a une population 40% d'Afro-Américains. Et donc, la ville ne ressemble en réalité à rien que suggère le film. D'accord, c'était les années 50, mais il a planté dans le Connecticut un équivalent d'une petite ville dans le sud. Le film, il y a peu de choses qui arrivent. Le mari essaie, selon les critères de l'époque, de suivre un traitement psychiatrique pour se normaliser. Il n'y arrive pas, il rencontre un garçon avec qui il tombe amoureux et il veut aller vivre avec ce garçon. Le qu'en dira-t-on dans son village? condamne cette jeune femme pour son amitié avec un jardinier afro-américain. Et lui, le jardinier, considère que c'est mieux pour lui et pour sa petite fille de déménager pour une autre ville. C'est triste, très très triste. Mais on se demande pourquoi Haynes a choisi le modèle du film de Cirque. Alors, Haynes est un cinéaste très original qui a développé un genre, c'est-à-dire la biographie non linéaire, sur un personnage fictif qui rappelle un personnage véritable. Et en général, c'est la biographie d'un chanteur. Et son premier film, un court-métrage, s'appelait The Karen Carpenter Story. Et c'était sur une chanteuse anorexique. Et le titre était Superstar, l'histoire de Karen Carpenter. Et là, dans ce film, il faisait jouer tous les personnages par des poupées Barbie. C'était, voilà, c'est son sixième film. Il a fait la biographie d'un personnage de glam rock qui a pu être David Bowie ou qui a pu être Iggy Pop ou les deux, où il fait des magnifiques scènes de spectacle des années 70 intercalées avec des scènes d'une grisaille totale dans laquelle vivent autrement les personnages de l'époque. Et il fait une référence à Citizen Kane d'Orson Welles en dirigeant une scène, une séquence où un journaliste vient interviewer l'épouse du personnage biographié et la trouve dans un restaurant. C'est un rappel absolument concret, immédiat et inratable du film d'Orson Welles. Mais ses tout premiers films étaient des adaptations de Jean Genet et dans sa biographie de Bob Dylan, entre guillemets, qui s'appelait toujours ou bien Rimbaud ou Billy the Kid et qui était joué par 6 acteurs, y compris 3 femmes. C'était le film après Tout ce que le ciel permet. Et Carole, qui est plus récent, c'est également un mélodrame où il y a un coming out homosexuel et s'est planté dans les années 50 avec toute cette luxuriance de couleurs. Donc, il fait des mélodrames avec une femme au centre et des biographies de chanteurs qui sont, du point de vue stylistique, absolument impressionnantes et jouissives.